Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work. Cet épisode est une édition spéciale puisque je reçois Stéphane Munier, le vice-président de Monster Energy à Hong Kong, pour nous parler de comment le corona est vécu là-bas et également de sa vision du Happy Work. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir Stéphane Munier qui est un vieux camarade de promo, c'est-à-dire que il a des cheveux blancs comme moi. Bonjour Stéphane Munier.
Salut Gaël.
Alors c'est pour ça on va se tutoyer parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Alors Stéphane, il a cette particularité de travailler à Hong Kong, de très bien connaître l'Asie puisque ça fait un peu plus de 4 ans qu'il y travaille en Corée ou à Hong Kong. Il est passé par Lu, Danone, Monster au niveau européen, British American Tobacco, Hong Kong, la Corée, puis directeur général d'une start-up à Hong Kong qui est une plateforme, si j'ai bien compris, qui connecte les personnes ayant besoin de services. Et enfin, depuis quelques mois maintenant, VP du développement commercial de Monster Energy à Hong Kong. Et quand j'ai demandé à Stéphane, est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose? Il m'a dit, oui, je suis marié et j'ai deux grands ados. Donc, bravo, parce que généralement, on me donne des titres et compagnie. Donc, la famille, c'est important. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. OK, donc Stéphane, donc pour résumer la situation, tu travailles à Hong Kong pour Monster Energy. Et Hong Kong, c'est un territoire qui est situé au sud de la Chine, qui compte environ 7 millions d'habitants. Et du point de vue du français que je suis, qui a des chiffres assez incroyables, puisque il y a eu, sur 7 millions d'habitants, 1100 contaminés et 4 morts. Alors, au-delà du côté absolument hallucinant du chiffre, ça nous laisse beaucoup d'espoir pour notre déconfinement à nous. Et c'est l'idée de cet entretien qu'on va avoir, Stéphane, c'est de comprendre comment on fait, comment vous avez fait et comment ça se passe concrètement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de redépart à Hong Kong de la contamination. Donc, l'idée de cet entretien, c'est de nous aider à mieux comprendre pourquoi ces chiffres et surtout regonfler notre optimisme pour le déconfinement. Alors, ma première question est assez simple, Stéphane. C'est quoi le quotidien aujourd'hui d'un salarié à Hong Kong? Est-ce que c'est radicalement différent ou finalement, est-ce qu'il y a peu de changements?
Alors, le quotidien, Gaël, est assez peu perturbé aujourd'hui pour un salarié à Hong Kong, et c'est déjà un premier point très positif. Hong Kong n'est pas passé par une phase de confinement. Donc, on a ce paradoxe d'avoir à la fois un territoire qui est très, très conscient des risques de la pandémie et qui a été très, très marqué par l'épidémie de SARS en 2003. Donc, on a en fait des gens, des habitants, des visiteurs, des expatriés qui sont tous très concernés et qui ont adopté très rapidement, évidemment, le port du masque, qui est en fait un acte généreux ici. On porte un masque surtout pour protéger les autres si on est enrhumé ou si on est potentiellement en mesure de contaminer quelqu'un. Donc, très rapidement, dans le territoire, toutes ces mesures ont été appliquées. Elles viennent pas forcément d'en haut, c'est vraiment la population elle-même qui a ses réflexes. Donc, on porte un masque, on fait attention à ses distances, on a du gel hydroalcoolique absolument partout, dans tous les établissements publics, privés, les transports, c'est omniprésent. On vous prend la température 5, 10, 15 fois par jour, on y fait plus attention. Mais c'est vraiment, ça fait partie du quotidien, ça devient absolument invisible. Mais évidemment, du coup, tout l'aspect de détection est beaucoup plus fin que ce qu'on a pu connaître dans pas mal de sociétés européennes.
Mais par exemple, tu vas dans un grand magasin, bim, on prend ta température.
Dans un grand comme dans un petit. Systématiquement, tu as une personne qui est à l'entrée, y compris dans un convenience store de 100 mètres carrés. Tu vas avoir une personne qui va prendre ta température à l'entrée et te laisser rentrer, tout en te proposant une petite noix de gel hydroalcoolique sur les mains.
Ok. Alors, je suis jamais allé à Hong Kong, mais j'imagine, enfin, dans les images que je peux en voir, surtout qu'on a beaucoup vu Hong Kong sur les news dernièrement, pas forcément pour le corona. J'ai le sentiment que c'est une cité qui est extrêmement dense, donc avec des transports. Et on a, nous, à Paris, parce que j'habite à Paris, c'est la grande question, les transports. Est-ce que les règles dans les transports changent ou pas?
Alors, c'est effectivement une des cités les plus denses au monde. Donc, bien évidemment, quand on parle de la propagation d'un virus, c'est un facteur aggravant. Les transports n'ont jamais été suspendus. Donc vraiment, l'idée, c'est maintenir une distance autant que possible, porter un masque en toutes circonstances et vaquer à ses occupations normalement. Ça n'a jamais cessé durant les périodes des mois passés.
Et pour revenir au sujet de l'entreprise, par exemple, est-ce que les réunions en présentiel sont autorisées ou alors ça, c'est interdiction totale?
Alors, le présentiel a été vivement déconseillé. Ça a été à la discrétion des entreprises. Très clairement, la consigne a été quand même de travailler de chez soi.
Encore aujourd'hui?
Non, de moins en moins. Les bureaux ont ouvert, il y a encore un peu de télétravail, mais dans la majorité des cas, les entreprises ont repris un rythme normal et les bureaux sont ouverts.
Alors justement, je fais une toute petite digression. À Hong Kong et en Asie en général, est-ce que le télétravail fait partie de la culture ou pas du tout? Et est-ce que le corona, ça a changé le rapport au télétravail? Parce qu'en France et en Europe, on parle beaucoup justement de cette évolution du télétravail. Est-ce que c'est le cas en Asie ou pas du tout?
Alors oui, c'est le cas en Asie. Si on parle de Hong Kong, après, il y a un facteur qui est intéressant, c'est que Hong Kong, c'est souvent le siège de beaucoup de sociétés pour l'Asie-Pacifique. Donc, on a des gens qui sont habitués à travailler sur de multiples fuseaux horaires, qui sont habitués à avoir des réunions à plusieurs ou à deux ou à trois simplement, et à travailler en télétravail. Donc, voilà, le fait est que les outils se sont encore améliorés, que les plateformes comme celles qu'on utilise, les Zoom, les Teams, pour pas les citer, sont de plus en plus performantes. Donc les gens sont habitués à ça, les gens sont aussi habitués à avoir une vraie discipline et une vraie ils sont vraiment capables d'utiliser au mieux ces outils.
Et finalement aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, maintenant qu'on est vraiment en phase descendante, je crois qu'il y a plus de contamination à Hong Kong, je ne crois pas dire de bêtises. Est-ce que c'est encore un sujet de discussion ou c'est vraiment maintenant vous regardez ce qui se passe éventuellement aux États-Unis et au Brésil parce que c'est encore une catastrophe là-bas ou c'est vraiment plus c'est passé, c'est bon?
On est vraiment en train d'en sortir. Ça reste un sujet de discussion, par exemple, parce que les derniers bastions, ce sont les terrains de sport collectif qui n'ont pas encore rouvert.
D'accord.
Ou qu'une table de restaurant ne peut pas être partagée par plus de 8 personnes. Donc, bien évidemment, il y a encore des aspects quotidiens. Mais très clairement, on est en train de sortir de ce sujet. Et comme tu le disais, il y a plus à Hong Kong de cas locaux.
D'accord.
Quelques cas importés qui sont traqués et qui sont bien sûr il y a toute une procédure d'arrivée à l'aéroport.
Je crois que tu es passé par là,
Je
crois que tu es passé par là il y a pas très longtemps et tu fais donc là en ce moment du hôtel travail qui est une nouvelle version du télétravail.
Exactement, c'est la suite logique, mais en effet après 8 semaines de confinement en France, je suis passé par 2 semaines donc de quarantaine stricte dans une chambre d'hôtel ici, donc sans franchir le palier de ma porte avec simplement un contrôle de température sur le palier de la porte tous les jours et des repas placés devant la porte. Donc, c'est effectivement très strict. Mais je dois dire qu'ici, et la communauté française est importante à Hong Kong, les gens en témoignent, tout le monde se plie très volontiers à cette discipline. Ils voient vraiment, les gens voient vraiment l'intérêt collectif, les gens voient vraiment l'importance de faire ce sacrifice et ils le font bien volontiers.
Mais est-ce que tu penses justement, parce que t'as été quand même plus longtemps français que asiatique d'adoption, est-ce que tu penses qu'en France, on va pouvoir connaître cette évolution? Parce que sur certains de mes articles, j'ai des commentaires disant « oui, mais nous, les Français, c'est pas pareil ». Est-ce que finalement, c'est le SRAS qui a déclenché ça ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est viscéralement ancré en nous, les Français, qui va faire que si jamais, dans un an, ça se reproduit, on va reconnaître les mêmes problèmes?
Je crois, Gaël, que maintenant, avec un peu de recul, la période du confinement, même s'il y a pu y avoir des épiphénomènes en France, dans l'ensemble, nos compatriotes ont plutôt joué le jeu et vraiment bien respecté collectivement le confinement sur les mois de mars, avril, mai. Maintenant, c'est certain que, par exemple, pour ce qui est du retour des Français de l'étranger, il y a une quarantaine qui est désignée comme une quarantaine volontaire. Il est assez clair que des gens qui ont fait énormément d'efforts et qui viennent de pays sur lesquels le virus ne circule absolument plus, c'est vraiment un gros effort, je dirais, que de leur redemander de faire à nouveau 2 semaines de quarantaine quand on ne rentre qu'une à deux fois par an dans son pays d'origine.
D'accord. Alors, pour finir, j'ai une question qui va concerner très directement ton business, que je rappelle que tu es le VP du commerce d'une boisson qui donne la patate, qui s'appelle Monster. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de crise, effectivement, et je parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec le patron d'Innocent, qui disait que fondamentalement, sur certains business, l'impact n'a pas été négatif, voire il a été positif. Est-ce que c'est aussi ce que tu ressens, ou du fait que Monster est très lié aux événements sportifs, ça a eu un impact négatif? Ça se passe comment, le corona chez Monster?
Alors, bon, on a été directement touché, y compris par au niveau de certains de nos dirigeants, et l'entreprise est vraiment très mobilisée pour apporter du soutien aux employés, mais aussi, puisqu'on a la chance d'avoir des boissons fonctionnelles, partout dans le monde, les équipes se sont organisées pour aller amener des canettes de boissons énergisantes aux soignants et aux gens qui étaient en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Donc ça, ça a été quelque chose qui a été très apprécié. Et nos produits correspondaient bien, si tu veux, à ce type de besoin pour les gens qui avaient des journées très longues. On est affecté dans le sens où nos produits sont consommés par des gens qui sont souvent, ce qu'on dit, on appelle ça de la consommation on the go. Donc forcément, quand les gens étaient chez eux, on a eu moins de consommation on the go depuis les convenience stores, depuis les magasins de proximité. En revanche, tout le monde, à l'issue du confinement, et on le voit un peu partout dans le monde, ressent ce besoin de sortir, de revenir à la vie. Et il y a un vrai besoin d'énergie, et nos boissons accompagnent, nos produits accompagnent cette envie.
Alors, je m'aperçois qu'à chaque fois que je fais une interview, je dis toujours c'est la dernière question, et puis il y en a toujours une ou deux qui viennent en plus, donc désolé pour le mensonge, Stéphane. Le bien-être au travail, aujourd'hui, pour toi, est-ce que ça a changé entre avant le corona, après le corona, ou finalement tu as toujours le même regard dessus, et quel est ce regard?
Fondamentalement, pour moi, le regard n'a pas vraiment changé sur le bien-être au travail. Enfin, c'est vraiment lié à la bienveillance vis-à-vis des collaborateurs, au niveau d'écoute qu'on peut avoir, à la capacité à manager des équipes. Je pense que ce qui est important, c'est notre capacité finalement à adapter nos comportements dans le cadre du télétravail. C'est-à-dire s'autoriser d'abord soi-même et autoriser ses collaborateurs à pas toujours être always on de 8h à 19h. Quand on est au bureau, on peut avoir une pause à la machine à café, on peut être en dehors de son bureau. C'est pareil depuis chez soi. Donc pas de culpabilité si à un moment donné un appel arrive et qu'on peut pas le prendre. Ce type de choses est pour moi très important au quotidien. Par exemple les fuseaux horaires. Moi je travaille sur un continent et c'est vrai que si on fait pas attention, on peut être très intrusif dans la vie des gens tôt le matin, tard le soir. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Privilégier les contacts vidéo, privilégier la capacité de transmettre l'émotion et le non-verbal, pas seulement uniquement les conversations audio ou les coups de fil toute la journée. C'est un ensemble de choses qui font que on peut préserver ce bien-être au travail dans un contexte qui est complètement différent.
Mais j'ai le sentiment, alors c'est forcément une impression biaisée, mais tu vas pouvoir répondre à la question, que le bien-être au travail en Asie, c'est très très secondaire par rapport à tout ce qu'on peut dire en Europe, encore plus dans les pays nordiques, mais quand on sait que le Japon, c'est le seul pays qui bat la France sur les burn-out, comment tu perçois le bien-être au travail, c'est un vrai sujet en Asie ou pas dans les entreprises par lesquelles tu es passé?
Alors, c'est un vrai sujet, c'est un sujet important dont tout le monde s'empare, que ce soit les locaux ou les expatriés. Tu évoques effectivement le Japon, enfin le Japon ou la Corée sont des sociétés très compétitives où les organisations, mais aussi les salariés eux-mêmes se mettent beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'excès qui en résultent. Je pense que ce sont des sociétés qui ont pris conscience de ça, qui travaillent vraiment sur ce phénomène. Mais de manière générale, non, je crois pas qu'on puisse dire que le sujet du bien-être au travail soit moins important en Asie. C'est vraiment un sujet sur lequel les managers travaillent, les sociétés travaillent, et je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans ce domaine.
Super. Eh ben Stéphane, mille merci pour ce moment que tu m'as accordé pour le podcast Happy Work. Je te souhaite plein de bonnes choses, bonne reprise, parce que tu reviens à la vraie vie finalement que depuis 2 semaines. Donc,
exactement, je sors de ma chambre.
Bonne reprise et à très vite.
Merci Gaël, au plaisir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.